Dans le récit de l'Évangile selon saint Matthieu que nous suivons en cette année, Jésus, après avoir commencé son ministère public en Galilée, assez vite, après avoir circulé un petit peu dans la région, monte sur la montagne, ça veut dire sur une colline au bord du lac de Tibériade. La foule qui se mettait à le suivre se rassemble autour de lui, une foule venue de toute la Galilée, attirée sans doute par sa prédication, mais peut-être aussi par les guérisons nombreuses qu'il a faites déjà. Une foule très diverse, donc, venue des villes et des villages, et puis peut-être même un peu au-delà de la Galilée, d'au-delà de la Galilée. Et puis de cette foule, Jésus appelle ses disciples qui l'entourent de plus près, et assis donc sur l'herbe, sur cette colline, il a proclamé ce que nous appelons les béatitudes, donc ces 8 bénédictions, disons, que nous avons entendues dimanche dernier, de nouveau. Et puis il continue son discours et nous allons suivre pendant quelques dimanches ce discours. Aujourd'hui donc, après avoir proclamé les béatitudes, après qu'il a proclamé les béatitudes, nous entendons le Seigneur qui utilise 2 comparaisons pour dire à ceux qui le suivent et plus spécialement à ses disciples qui ils sont, qui ils peuvent être, qui ils ont à être au milieu du monde. Les 2 comparaisons que Jésus utilise expliquent tout ou donnent à réfléchir plutôt à la présence, au sens de la présence d'un petit nombre au milieu de la foule des hommes. 2 comparaisons. La première, celle du sel, fait réfléchir vraiment au fait, à l'intérêt qu'il peut y avoir à ce que un petit nombre soit comme cela mêlé à la masse des autres. Et cette comparaison se termine par un avertissement. Et puis l'autre comparaison, celle de la lumière, évoque plutôt l'étrangeté, la nouveauté, l'originalité que le petit nombre peut avoir et l'effet que cette originalité peut avoir sur le grand nombre. Et elle se termine par un encouragement. La comparaison du sel, donc le sel relève le goût des aliments, il exacerbe le goût des différents composants dans un plat, il permet aussi de conserver les aliments. Il faut un peu de sel, pas trop, mais il en faut quand même, pour que l'on puisse vraiment goûter, apprécier la saveur d'un plat qui nous est proposé. Donc la promesse que Jésus fait à ceux qui l'écoutent, c'est que si peu nombreux soient-ils dans le monde, s'ils jouent vraiment le jeu qu'ils ont à jouer, s'ils sont vraiment ce qu'ils ont à être, ils contribuent à ce que la vie de l'humanité ait du sens, à ce que l'existence même des hommes ait une signification, une valeur, une portée, serve à quelque chose, soit puisse être réjouissante. Et l'avertissement, c'est que pour cela, il faut que le sel conserve son pouvoir de salé, qu'il ne soit pas édulcoré. Et nous comprenons bien que cela indique une exigence quant à l'écoute de la parole du Seigneur, quant à sa mise en œuvre, quant à la manière d'être vraiment et de vivre. L'autre comparaison, celle de la lumière que l'on met comme une lampe sur un lampadaire, c'est une petite chose. Elle, dans les ténèbres, elle vient trouer, percer la lumière. C'est un encouragement à agir, à faire le bien. Et même si tout le monde ne se comporte pas de la même manière, même si dans le monde, la plupart des hommes font d'autres choix, la promesse de Jésus, c'est que ceux qui font le bien au nom de Dieu, eh bien ceux-là sont comme une lumière pour les autres, qui attire, qui réchauffe, qui éclaire, qui donne de l'espérance. Et l'encouragement, c'est que les autres, le monde, ceux qui sont encore dans les ténèbres, disons, ceux qui vivent différemment, sont cependant capables de reconnaître le bien, de s'en réjouir et de rendre grâce à Dieu. Alors ces paroles, Jésus les adresse au tout début de son ministère à ceux qui viennent à lui. Ils sont un petit nombre, évidemment, au milieu du peuple d'Israël. Nous comprenons bien que cela nous concerne aussi. Nous ne sommes pas forcément le tout de l'humanité, et nous pouvons même dire que nous ne sommes pas le tout de l'humanité, nous qui écoutons Jésus. Et cependant, si nous vivons ce que nous avons à vivre, nous sommes de ceux qui font que la vie de l'humanité, l'existence même de l'humanité, a du sens, a du goût, a de la saveur pour Dieu ou face à l'éternité. Et nous avons une certaine exigence qui pèse sur nous pour que nous remplissions vraiment ce rôle. Et d'autre part, nous devons oser agir comme nous croyons devoir agir. Nous devons avoir l'audace d'agir en cherchant le bien tel que nous le découvrons dans la lumière du Christ, sans trop nous préoccuper de ce que les autres pensent, mais en ayant confiance que les autres, même si notre action peut dans un premier temps les faire ricaner, sont aussi capables, par la grâce de Dieu, de reconnaître le bien, de s'en réjouir et d'en rendre grâce à Dieu, chacun à sa manière. Ce qui est impressionnant aussi dans cette scène, si nous nous la représentons telle qu'elle s'est passée sur les bords du lac de Tibériade, c'est que Jésus ne s'adresse pas à l'élite du peuple d'Israël. Il s'adresse à des Juifs, à des gens qui font partie du peuple de l'Alliance conclue avec Abraham et avec Moïse, et des gens qui sans doute essaient d'en vivre à peu près, mais ce n'est pas l'élite du peuple qu'il rencontre en Galilée, ni les plus savants, ni les plus cultivés, ni ceux qui connaissent le mieux la loi. Ce sont voilà, des gens ordinaires, ce qu'il peut rencontrer comme cela dans des petites villes et des petits villages. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que Jésus dit à ces gens-là, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Il ne s'adresse pas aux scribes et aux pharisiens, il ne s'adresse pas aux prêtres de Jérusalem, il ne s'adresse pas à des gens qui sont de familles distinguées ou qui ont fait des études, même rabbiniques, ou même des études de la loi, mais à des gens qui essaient de vivre comme ils peuvent, bon an mal an, de l'alliance de Dieu. Et donc à cela, Jésus dit, affirme, Jésus proclame qu'ils peuvent, ou qu'ils en soient de leur relation à Dieu, ou qu'ils en soient de la mise en œuvre de la loi, ils peuvent être le sel de la terre et la lumière du monde, du moment qu'ils essaient de vivre vraiment de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils sont capables de percevoir, de ce que Dieu attend d'eux, et de ce qui est donc le bien, le juste, le vrai, le beau, selon ce qu'ils sont capables de faire, chacun à son niveau. Voyons bien, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus ne vient pas pour s'adresser simplement aux plus vertueux, à ceux qui ont tous les talents, à ceux qui ont la capacité de maîtriser leur vie en tout, mais Jésus vient dire à tous les hommes, où qu'ils en soient, qu'il vaut la peine qu'ils essaient d'avancer sur le chemin de Dieu, qu'il vaut toujours la peine que chacun fasse le bien qu'il peut faire, que chacun ose vivre dans la recherche de Dieu et de sa volonté, même si peut-être il ne met pas en œuvre la volonté de Dieu en tout, même si peut-être il ne respecte pas la loi de Dieu absolument dans tous les domaines et à égalité. Et nous comprenons peut-être, à la lumière de saint Paul d'ailleurs, que Jésus dit cela parce que lui vient en quelque sorte payer le prix qu'il faut pour compenser tout ce qui manque, de sorte que le peu que nous pouvons faire, le peu ou le beaucoup que chacun d'entre nous peut mettre en œuvre, eh bien cela vaut, cela donne du goût à la vie humaine et à l'existence de l'humanité, et cela peut éclairer et réconforter ceux qui nous croisent dans le chemin de leur vie terrestre et leur donner un motif de glorifier Dieu de leur existence, malgré tous les doutes et toutes les ténèbres dans lesquelles ils peuvent se trouver. Ceci explique peut-être pourquoi aussi saint Paul dit aux Corinthiens qu'il est venu à eux tout craintif et tremblant. C'est que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour constituer un peuple solide, un peuple fort. Jésus n'est pas venu pour donner à Israël la prospérité. Il n'est pas venu pour rassembler une élite d'hommes et de femmes à qui il promettrait toutes les bénédictions de Dieu et tous les succès terrestres. Il est venu mettre en nous un principe d'inquiétude permanent. Est-ce que je suis le sel de la terre? Est-ce que je me laisse renouveler suffisamment pour vraiment être le sel qui sale? Est-ce que vraiment j'allume ma lampe à la lumière du Christ? Et est-ce que j'ose agir comme il convient? Est-ce que vraiment dans mon action, je me laisse conduire par ce que je reçois de lumière du Christ et non pas simplement par le consensus des hommes qui m'entourent? Est-ce que vraiment j'ose vivre avec assez de liberté pour que mes actions puissent éclairer un peu ce qui se trouve autour de moi? Est-ce que j'ai assez de tranquillité intérieure, de paix intérieure et de relation au Seigneur pour que, à travers ce que je fais modestement, mais fermement, mais courageusement, mais persévéramment, voilà, l'existence de l'humanité soit salée, prenne du sens et de la signification? Jésus n'est pas venu pour nous installer dans un état où nous serions tranquilles, assurés, où nous n'aurons plus de questions à nous poser, mais au contraire, pour nous mettre dans un état d'interrogation perpétuelle, de reprise continue, de conversion sans cesse approfondie. Et c'est pourquoi l'apôtre dit aux Corinthiens: « Je suis venu à vous craintif et tout tremblant », parce que, encore une fois, il n'est pas venu pour leur donner des avantages, mais il est venu pour, au contraire, les mettre en route avec toute l'incertitude que l'on peut avoir sur la manière dont on marche et sur l'aboutissement, sur la réussite de cette route. Et en même temps, il est venu vraiment annoncer le Seigneur crucifié, qui dans sa croix nous montre le chemin de l'amour, le chemin de l'amour vécu jusqu'au bout, sans réserve, et qui dans sa résurrection atteste, par la puissance du Père, dans sa résurrection atteste que ce chemin de l'amour est le vrai chemin de la fécondité de la vie humaine. Puisse donc, frères et sœurs, l'Eucharistie que nous célébrons en ce dimanche nous renouveler dans notre joie de connaître le Seigneur Jésus, de laisser sa parole nous habiter, nous transformer, nous stimuler, nous interroger, nous interpeller sans cesse, nous obliger à nous demander sans cesse si nous la mettons suffisamment en œuvre. Puisse cette Eucharistie nous assurer que malgré nos défauts, nos opacités et même nos chutes, il vaut la peine que nous tâchions d'avancer toujours, parce que le Seigneur a livré sa vie pour que le peu que nous fassions chacun puisse avoir cette pleine signification qu'il promet à ses disciples et puisse servir au bien de l'humanité tout entière, de son bien non pas seulement terrestre, mais surtout de son bien éternel. Puisse donc notre prière commune en ce jour et notre participation au sacrifice du Christ et de l'Église renouveler notre joie d'être de ceux dont le psalmiste peut dire « Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Puissions-nous désirer toujours être cela autant que nous le pourrons. Amen. »